vie, mon boulot. Avec Mélissa Nadeau, directrice générale du Centre de recherche d'emploi Beauce-et-Chemin.
Bonjour, Mélissa.
Bonjour, Alexis.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Très content de te retrouver sur les ondes de Passion FM. C'est les auditeurs, puis moi-même aussi, je suis habitué de t'entendre. Mais là, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé, nous autres.
Ben oui, c'est une belle surprise cet après-midi de t'avoir au bout du fil.
Exactement. Puis je pense qu'on a un très beau lien avec le sujet, le fait que je sois ici, hein, pas capable d'arrêter deux secondes, puisqu'on parle de workaholism. Je le dis tout le temps en anglais. C'est la deuxième fois que je le dis, puis je le dis en anglais. Mais de dépendance au travail, le workaholism.
Oui, exactement. Donc, la traduction française de dépendance au travail, on pense à alcoolisme, donc dépendance à l'école, donc work, travail, dépendance au travail. Donc, la définition de base, c'est vraiment une addiction comportementale caractérisée par le fait d'être vraiment investi de façon excessive et compulsive dans le travail. Et ce, ben, au détriment, vraiment au péril même, si on veut, de la santé physique, psychologique et des relations sociales familiales. Donc, ça peut être assez grave. Là. Ça peut être vraiment avoir des impacts majeurs. Comment on peut faire en sorte qu'on reconnaît auprès des gens de notre entourage, de collègues, de nos supérieurs ou même par rapport à soi-même, donc les caractéristiques et symptômes qu'on peut ressentir ou observer? C'est vraiment une compulsion puis une perte de contrôle. Vraiment, c'est un besoin de travailler. Tu sais, la personne, si elle n'est pas dans ses tâches, dans ses dossiers, dans ses mandats, qui n'est pas, peu importe ce qu'elle fait comme emploi, parce que ça s'applique à peu importe le métier ou les responsabilités qu'on a assumées. Donc, la personne va se sentir mal, vraiment, physiquement. Elle ne sera pas capable de se concentrer à faire ses tâches personnelles ou à décrocher avec ses activités de loisirs, elle va vraiment dire, c'est vraiment une pulsion d'une incapacité, une pulsion à travailler puis une incapacité à vraiment prendre une pause, même si la personne dit, hey, là, il faut, là, le congé des fêtes arrive ou c'est les vacances estivales, c'est vendredi soir, hein, on est rendu 10 heures le soir vendredi alors que je terminais ma journée à 16 heures, mais elle va continuer de travailler encore. Donc, c'est un travail aussi dans les caractéristiques excessives. Donc, la personne qui, oui, fait ses heures normales de travail, mais souvent qui va déborder 50, 60, 70, 80 heures par semaine ou peut cumuler même plus d'un emploi et pas nécessairement par un besoin financier, mais vraiment parce que ça devient viscéral là, dans son corps et dans sa tête. Et c'est ça, une des autres caractéristiques, c'est que la priorité est donnée à sa vie au travail. C'est vraiment le centre de l'existence. Donc, tout ce qui est toutes les autres sphères de la vie n'existent presque plus ou pas du tout. Puis évidemment, comme je le disais, mais ça a des impacts sur la santé physique. Donc, quand on est fatigué en continu, même si on reprend des heures de sommeil, à un moment donné, on dit, je vais faire une petite cure de sommeil la fin de semaine. Non. La fatigue est toujours là, des maux de tête, rythme cardiaque là, qui est un peu dérangé, des palpitations, tension artérielle aussi qui augmente. Au niveau psychologique, évidemment, le stress, l'anxiété de performance, je vais t'arriver à tout faire. Le stress aussi parce que tu le sais que tu n'es pas avec ta famille, par exemple, à faire l'activité ou à fêter la personne qui était célébrée cette journée-là, mm-hmm. Toi, dans tes tâches. Fait que c'est sûr qu'il y a un enjeu de culpabilité qui vient là-dedans. Et évidemment que le risque d'épuisement professionnel est aussi très important. Et évidemment aussi, comme je le disais, c'est au niveau social et familial, on se coupe des relations, on s'isole. Ben, à un moment donné, on peut finir par souffrir de solitude et nos relations familiales, ça peut dégénérer en séparation et en divorce. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui vont contribuer à faire en sorte qu'on peut en venir à développer la dépendance au travail? Évidemment, une forme de pression professionnelle. Je le disais que ça peut s'appliquer à différents types de métiers, mais dans certains secteurs d'emploi, il va y avoir une rapidité d'exécution, une exigence de performance, vraiment une pression qui va faire en sorte que ça va devenir un facteur déclencheur pour développer cette fameuse dépendance au travail. Culture d'entreprise aussi, qui vraiment vont instaurer un climat ou une façon de faire d'heures supplémentaires, encourager, imposer, bonus parfois faramineux à l'autre bout de l'année. Ça me fait toujours penser à la série télé qui vient de se terminer québécoise avant le crash où les gens étaient très investis dans leur emploi, peu importe les heures du jour ou de la nuit. Donc, ça vient créer cette addiction-là au travail. Et aussi, c'est une espèce de besoin de contrôle aussi, comme quelqu'un qui a un problème alimentaire, qui veut contrôler sa vie, contrôler la façon dont il s'alimente. Donc, la personne dépendante au travail veut aussi contrôler son investissement dans le travail, veut contrôler tous les paramètres, cherche une valorisation puis une reconnaissance en se disant, ben si je me donne à 100% dans le travail, ben je suis vraiment une personne reconnue, une personne de valeur. Ça me donne des résultats, donc c'est nécessaire que je continue de m'investir autant dans les tâches de travail. Fait que ça devient quand on dit un cercle vicieux, c'est exactement ça. Et finalement, oui, vas-y Alexis, après mon souffle.
En fait, mon prochain point, c'était, si on y va par étapes, là, parce que comme tu l'as dit, tout le monde peut remarquer chez l'un et l'autre si on est workaholic ou pas. Si, par exemple, je suis un employeur et je vois qu'un de mes employés est workaholic, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider finalement? Y a-t-il des trucs?
Oui, ça vient justement dans les solutions, dans les pistes de gestion. Bien évidemment, c'est d'observer et de se prendre des notes. Est-ce que le rendement est toujours aussi efficace? Est-ce que, la personne est là, elle se donne beaucoup, mais c'est au niveau performance, au niveau rendu, qualité du travail, c'est moins là. Donc, d'observer les choses et évidemment de rencontrer la personne, en lui nommant ces faits-là ou ces observations-là, de voir, depuis quelque temps, je vois que tu rentres plus tôt le matin, tu quittes plus tard en fin de journée, je reçois des courriels à toute heure du jour ou même de la nuit ou de la fin de semaine, y a-t-il quelque chose qui se passe? Juste pour voir s'il y a-t-il une raison en arrière. Est-ce que, la personne justement, tu sais, des fois, il y a la personne qui a développé une dépendance au travail, mais ça peut être des ennuis dans la vie personnelle qui fait en sorte que ça va moins bien à la maison, peut faire en sorte je vais m'investir dans le travail, puis par la suite, ça va vraiment se développer ou se conclure en dépendance. Et ça va être vraiment de discuter et de voir aussi avec les collègues de travail, est-ce que c'est un climat? C'est dans l'ambiance en tant que telle, est-ce que c'est un climat comme supérieur, s'observer aussi? Si on est de ces personnes qui, justement, qui ne respectent pas tant leur heure de travail, ils se donnent beaucoup, envoient des courriels n'importe quand ou des textos à ses employés en dehors des heures de travail, ben peut-être qu'on a instauré cette façon de faire-là, ce climat-là d'être très investi, très engagé dans le travail, puis qu'on nuit aux choses. Donc, ça serait vraiment, puis éventuellement, si on a un programme, on est une plus grande entreprise avec un programme d'aide aux employés, ben de voir qu'il y a quelqu'un au niveau psychologique, au niveau organisationnel, un consultant d'organisation du travail qui pourrait revoir la définition des tâches, les horaires. Puis on peut le faire à l'interne aussi, évidemment, là, mais se dire, OK, là, techniquement, on a droit à une pause hein, entre après tant d'heures de travail, mais qu'on en fait une activité vraiment clair, instauré. On peut pas déroger, là. Même si la personne dit, j'ai pas tout à fait fini. Non. Là, c'est l'heure de la pause qui est à le faire un peu comme la petite école avec la cloche de pause, mais ça va devenir un peu plus humoristique, mais ça va permettre à toute l'équipe de mettre en place des facteurs facilitants pour éviter, la dépendance au travail. Puis si on en discute aussi, on peut en discuter en réunion d'équipe, de voir, y a-t-il une surcharge? Et peut-être que finalement, s'il y avait des embauches supplémentaires, une façon de revoir le travail, la reconnaissance qu'on a en fin d'année, c'est pas nécessairement un boni financier de performance, c'est intéressant, mais ça contribue aussi au fait d'éventuellement de développer cette fameuse dépendance-là au travail. Donc, il y a différentes avenues possibles, mais évidemment, c'est d'être alerte dès qu'on voit qu'il y a un comportement qui change dans l'équipe auprès d'un collègue. Là, c'est un signe qu'il faut aller creuser un petit peu plus pour en savoir davantage.
Puis si on parle d'un proche, par exemple, moi, c'est mon ami qui serait workaholic, comment je peux aborder ça avec lui?
Ben, c'est un peu le même principe, c'est de le mettre devant les faits. J'ai remarqué depuis quelques temps, on avait un souper d'amis, tu te souviens, on se fait toujours un souper à chaque mois, ça fait quelques fois que tu ne viens pas, tu me dis que tu es très pris par ton travail. C'est vraiment de le ramener à des faits concrets, que tu sais, là, la personne, c'est juste dire, t'es jamais là, tu sais, on fait des généralisations, là, sans s'appuyer sur des éléments précis, mais plus facile pour la personne de se défiler ou d'avoir une excuse qui n'est pas nécessairement réelle. Puis, c'est de penser aussi, c'est la dernière chose que je voulais dire pour la chronique, il y a une différence aussi entre l'engagement au travail puis l'attachement affectif aussi au travail, qui ne seront pas nécessairement d'être dépendants au travail, qui devient malsain. Il y a des gens qui sont super investis, qui se donnent, mais qui se donnent dans le temps de travail qui est accordé. Je travaille entre 8 et 4, entre 9 et 5, entre 3 jours semaine, entre telle heure et telle heure. Mais quand je suis là, je me donne à mon maximum. J'adore mon équipe. Je vais faire des activités pour que ce soit plaisant, des activités sociales. On va se parler autour de la machine à café. On va prendre nos pauses, on va dîner ensemble, mais ça nuira pas. C'est un coup que la personne a quitté son travail, elle est capable de pas y penser la plupart du temps.
Et de faire le détachement.
Travailler. Exactement. Donc, c'est la nuance. Là. Pas que les gens se disent, oh mon Dieu, je ne peux plus être engagé dans mon boulot ou aimer ça. C'est vraiment, quand on traverse une ligne, justement, quand les gens de notre entourage nous disent, hey, on te voit plus, t'es jamais, t'es pas venu à telle et telle fête, on est en vacances, mais t'es devant ton écran de portable, ça fonctionne plus, là, souvent les gens, puis nous-mêmes, là, tu sais, à un moment donné, on les sent soi-même, on est aux prises avec ça, puis on sent les petits signaux d'alerte, là, c'est de pas se mentir, puis surtout, là, actuellement, on en entend de plus en plus parler, là, des gens dans les médias ou dans le monde des affaires qui doivent faire des pauses professionnels parce que justement sont rendus au bout du rouleau parce que probablement ils ont eux-mêmes développé une dépendance au travail avec le temps. Donc ce n'est plus un tabou là qu'il faut qu'on conserve, c'est qu'il y a de l'aide possible. Puis il y a une façon de s'en sortir pour redévelopper une relation saine avec le travail.
Exactement. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire, Mélissa, sur le sujet?
Ben non, ça complète, mais j'invite les gens, si certains croient que ont peut-être ce type de dépendance ou que ça entraîne des impacts au niveau professionnel et personnel, de nous contacter soit à notre bureau de Sainte-Marie au 386-44-45 ou encore à notre bureau de Saint-Georges au 227-54-45 pour avoir un rendez-vous avec l'une de nos conseillères.
Mais merci beaucoup, Mélissa, encore une fois, d'être sur nos ondes encore cette semaine. Puis les auditeurs te disent à la semaine prochaine pour une autre chronique « Ma vie, mon boulot ».
C'est parfait, Alexis. À la semaine prochaine.
Bye bye.